Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
On se retrouve dans un instant sur Sud Radio, comme l'a dit l'excellente Cécile de Médibus avec l'excellent Benjamin Castaldi qui vient nous parler de ses grands-parents, Yves Montand, Simone Signoret, Je vous ai tant aimé. C'est un livre qu'il signe aux éditions du Rocher. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Grandjean et bonjour Benjamin Castaldi.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir ce matin pour nous parler de ce livre Je vous ai tant aimé, un livre très personnel, très intime dans lequel vous racontez vos grands-parents Simone Signoret et Yves Montand. C'est pas donné à tout le monde.
Non, c'est vrai.
D'avoir eu ces grands-parents et c'est écrit, on va y revenir de façon encore une fois très très personnelle. Vous commencez sur un
dialogue.
Pardon,
c'est une scène de film.
Un dialogue, c'est une scène de film, oui. Parce que leur rencontre est une scène de film, oui. Également. Donc vous revenez sur ces souvenirs, sur les moments.
Leur histoire.
Leur histoire, voilà. Et puis,
en fait, c'est une bio croisée, parce que c'est la première fois.
Oui, c'est ça, c'est la
je voulais les réunir ensemble parce qu'il y a eu beaucoup d'ouvrages sur l'un et l'autre. Ma grand-mère d'abord a fait sa bio très bien.
Hein.
Oui. La nostalgie. Montand l'a fait de son côté avec Hamon et Rothman. Mais je trouvais que c'était à chaque fois, parce qu'il y a une petite boutade sur que faisait Montand, c'est que quand elle a sorti La Nostalgie, qui a été un immense succès, il dit quand même, bon, t'as eu un gros succès, enfin, c'est quand même un peu aussi mon histoire.
Ouais.
Donc je me suis dit, on va les réunir ensemble, et avec le regard de son petit-fils, c'est peut-être pas mal, d'autant qu'on a fait un vrai travail avec Fred Massot de documentation, et c'est surtout un travail, on a fait un travail d'universitaire, hein, surtout.
Absolument, il y a énormément de recherches, mais on va y revenir dans un instant. On commence avec la question du jour, qui a un petit lien avec vous, parce que c'est
forcément.
Benjamin Castaldi, c'est quand même un peu le...
Dites-moi,
le grand...
c'est Sud Radio, on se pèle ici, hein, je vous le dis. Hein.
J'ai fermé les fenêtres, on a l'air avant, on a l'air, là, ça va. Allez, vous voyez, moi j'ai mis un gros pull parce que je sais qu'il fait froid dans nos studios. Et oui, parce que vous, c'est un peu le grand écart. C'est-à-dire que vous, Montand Signoret et puis le loft.
C'est ça.
Donc c'est,
qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Non, mais c'est que vous êtes très éclectique.
Allez au bout de votre pensée. Allez au bout de votre pensée.
Donc c'est une question sur la télé-réalité.
Et une chose formidable, c'était quand il présentait une émission de cinéma sur Europe 1.
Absolument.
Qui était une émission, mais d'une intelligence et des interviews formidables.
Merci.
Et on ne se dit pas que c'est le même homme qui fait de la télé-réalité, mais bon. C'est
alors, c'était
ça.
Pas que
c'est
cinéma, c'était beaucoup d'intellectuels dans
super.
Tous les domaines. Ouais. Ah bah c'est alors... sûr que passer de Loana à Françoise Giroud, forcément, ça...
C'est le grand écart.
C'est le grand écart.
Et oui, il y a Loana qui est de retour dans Touche pas à mon poste, et puis également la télé-réalité. On s'est demandé si ça avait, quand on regarde Loana, une mauvaise influence, évidemment sur ceux qui la font, mais également sur les jeunes qui la regardent. Et puis je rappelle que votre fils est aussi dans une télé-réalité. Alors est-ce que la télé-réalité a une mauvaise influence sur les jeunes? C'est la question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez aller voter. Pour l'instant, nos auditeurs, on vient juste de le mettre en ligne, nos auditeurs disent oui à 92%. Et non à 8%.
Oui, à 92%, oui.
Pour l'instant.
Mauvaise influence. Ouais. Vous en pensez quoi, vous?
Écoutez,
on vous a déjà posé la question 100 fois, mais...
Non, mais je vais vous répondre une 100e fois.
Ouais.
Mon fils, il l'a fait la télé-réalité parce que le pauvre, comme beaucoup d'étudiants, il s'est retrouvé en deuxième année d'études dans un contexte épouvantable, c'est-à-dire ne pouvant plus aller en cours. En plus, il avait choisi, lui, une branche de commerce et sport. À mon avis, ils sont sinistrés pour quelques années. Il était cloîtré à la maison puisqu'il n'y avait plus de cours. Il fallait faire les cours en... via les écrans, et il n'avait plus du tout envie. Donc il a eu cette chance de partir faire de la télé-réalité.
Et c'est une chance ?
Écoutez, oui, je pense que c'était une chance.
Ouais.
Je pense que si on n'est pas totalement stupide, et si vous regardez bien ceux qui réussissent dans ce domaine-là, ils sont loin d'être bêtes. Ils jouent les abrutis, mais ils sont loin d'être bêtes.
Ouais. Donc comme le pense Valérie, tout est truqué ?
Non, j'ai pas dit ça.
Mais maintenant, on a affaire à... Maintenant, c'est devenu,
un, professionnel,
c'est devenu un métier. Voilà. On est candidat de télé-réalité.
Voilà. Allez, Gilles, on passe au zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Valérie Benjamin, c'est une nouvelle affaire d'agression sexuelle qui a fait la une des médias hier sur toutes les chaînes. Une avalanche de témoignages venant de Sciences Po et de toute la France.
Moi, mon violeur était un sciences-piste. Il m'a violée lors d'un échange universitaire à Vancouver. Impunité totale.
J'ai aussi été harcelée et menacée de viol sur le campus de Reims. Personne ne m'a cru.
Mon parrain de Sciences Po m'a violée quelques semaines après mon arrivée à Strasbourg.
Sur les réseaux sociaux, les témoignages se succèdent sous le mot-clé Sciences Po, des récits glaçants.
Ce qui m'a le plus frappé, c'est de découvrir qu'en fait, à travers les IEP, à travers la France, c'est toujours les mêmes dynamiques qui se passent. Il y a une prééminence des viols pendant les processus d'intégration et surtout un silence des administrations qui est assez frappant.
Hier, dans cette avouane, Elisabeth Lemoine recevait Sandrine Rousseau, qui avait porté plainte, vous savez, contre Denis Baupin. Et depuis, sa carrière est bloquée. Pour elle, c'est la solidarité masculine.
Postuler à plusieurs postes après, et des personnes qui aujourd'hui sont soit accusées, soit convaincues de violences sexuelles m'ont barré la route. Enfin, je veux dire, c'est le cas d'Olivier Duhamel, de Gérald Darmanin, par exemple, clairement.
Et en fait, on n'est pas du conseil d'administration de Sciences Po,
mais bien sûr,
auquel vous étiez candidate.
Mais bien sûr, mais on n'est pas dans un monde de bisounours. Hein. C'est-à-dire que quand on dénonce des violences sexuelles, en fait, on s'affronte à des personnes qui maîtrisent extrêmement bien les rapports de domination.
Voilà, Sciences Po, oui. Je pense que vous allez en parler avec
nos
débatteurs.
On va en parler tout à l'heure.
De tout ce qui se passe autour de tout ça. Hier, colère d'un certain. Vous connaissez Benjamin Castaldi? C'est un animateur de télévision. Il était dans Touche pas à mon poste. Il faisait face à l'avocat Divisio qui lui relativisait la pandémie. Oh, c'est pas grand-chose, 80 000 morts. Oh là là.
Ça fait un an que tout le monde est dans la merde à cause de ce virus. On est
non, monsieur. Tout le monde n'est pas dans la merde à cause de ce virus. Non, monsieur. Tout le monde n'est pas dans la merde. Non, monsieur. Tout le monde n'est pas dans la merde à cause de ce virus.
Tout le monde est dans la merde.
Tout le monde. Je ne peux pas vous laisser dire que tout le monde est dans la merde. Non, monsieur.
C'est un virus par jour qui tombe. Il y a des gens qui sont. Attendez, il y a des vieux qui meurent. Il y a des théâtres fermés. Tout le monde est fermé. Il n'y a plus d'économie.
Monsieur, je veux dire.
Oui, alors ils se sont.
Monsieur. Alors attendez. Ça, je vais répondre à ça. Ça, je vais quand même répondre à ça. Ce que vous faites, monsieur, s'appelle du plateau.
Voilà. On ne comprend rien, en fait.
Comme ça, sans l'image, on ne comprend pas trop. Mais vous étiez très en colère.
Hein. Mais oui, parce que ce monsieur était très bien. C'est un avocat, il est juriste, il fait du droit.
Tous les avocats ne sont pas très bien.
Non, mais moi, il est très bien. Voilà. Ouais. Donc, et moi, ça m'a gonflé qu'on vienne m'expliquer que tout ça était un pas grave. Si c'est pas grave, alors c'est qu'on ne fallait pas rien faire depuis le début. Ouais. Et il y a quand même aujourd'hui entre 400 et 500 morts par jour. Comme je dis, c'est un Airbus qui tombe par jour. Donc, je veux bien tout entendre, mais qu'on ne vienne pas nous expliquer que juridiquement, c'est la privation des libertés. Oui, on est tous privés, mais enfin, si c'est en train de priver de liberté ou crever, ben, je préfère priver de liberté.
Vous lui parlez après, hors antenne, ou pas?
Non, j'ai pas.
Vous lui avez mis votre
poing. Non, j'ai pas. Mais non, je ne mets plus mon poing sur la gueule à personne. D'ailleurs, j'ai jamais mis mon poing sur la gueule de personne.
C'est vrai.
Il faut pas se battre. Ouais. Enfin, c'est très mauvais. Non, mais il est très, très sympathique, mais il m'a gonflé.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il. Alors, c'est l'avocat de Didier Raoult, hein, entre autres. Ouais. Et il fait partie, effectivement, des gens qui ne sont pas d'accord avec avec ce qui est dit. Et il y a aussi la députée Martine Vonner, c'était hier, hein, dans Quotidien.
Dans Quotidien, ils ont été repérés pour une séquence qui s'appelle le canap, et c'était à l'Assemblée nationale où elle affirmait des choses assez hallucinantes.
Alors, on n'a pas encore.
C'est comme assez vite ici,
les dents. On a des petits bugs de temps en temps. Mais c'est vrai qu'elle avait dit à une époque les masques, ça ne sert à rien. Hier, elle réclamait à ce qu'il y ait plus de prévention. Et puis, elle affirmait qu'il n'y avait pas de mort dans les hôpitaux, que les hôpitaux au Brésil étaient totalement sans mort, et ce qui est totalement faux. Ce sont des contre-vérités. Non, j'aimerais bien qu'elle nous explique également son comité. Elle est à la tête de Laissons-les prescrire, où elle dit qu'elle a 30 000 médecins. Alors il y a des gens qui sont allés regarder, et en fait il n'y aurait plus que 1 000 médecins qui seraient réellement inscrits à l'ordre des médecins. Donc il y a beaucoup de gens qui colportent des fausses informations.
Le pire c'est ça.
C'est terrible, ça.
C'est le complot. Moi je trouve ça dramatique. Chacun y va de son. On devrait tous être pour le coup ensemble, et il y en a toujours un ou deux pour dire n'importe quoi, ou pour laisser croire des choses qui sont épouvantables.
Allez, Gilles, on enchaîne.
Oui, on enchaîne. Alors je suis très surpris, Benjamin, vous n'êtes pas venu avec votre perche. Moi je pensais que vous vous baladiez tout le temps.
Avec votre perche.
24h sur 24 avec vos perches.
Je vois pas du tout à quoi vous faites allusion.
Je fais allusion. Voilà, c'est hallucinant. Je faisais allusion évidemment à Comme J'aime. Alors je vous ai trouvé un client pour Comme J'aime. Je vous ai proposé le président Gérard Larcher. Écoutez.
La réduction des dépenses publiques qui sont aujourd'hui arrivées à près de 64%. Pardonnez-moi, c'est un sujet qu'il va falloir traiter avec courage. Est-ce que pour ça, il faut dire on change de régime? Là, je dis non. Je dis on se met au régime.
Voilà, il faut se mettre au régime. Je me suis dit que j'avais la bonne personne en face de moi pour Gérard Larcher.
Ouais.
Mais avouez qu'elle est ridicule, cette pub.
Alors, moi, je suis ridicule, vous voulez
dire? Non, mais avec la perche, pourquoi une perche?
Oui, vous expliquez, la mise perche, en scène.
Écoutez, je ne suis qu'ambassadeur de la marque Comme J'aime, donc je ne choisis pas
la mise en scène.
Je sais que le spot, bon, je pense qu'il commence un peu à gonfler parce qu'il a passé énormément.
Ouais.
Ça, je pense que ça gonfle. Mais il était... en tout cas, c'est un spot qui fonctionne.
Oui, oui, non, c'est sûr qu'on en parle. Et Laurent Gérard se moque de vous,
oui,
vous l'avez entendu.
Mais ça, c'est ça formidable. Vous fait mais c'est formidable. Parce que quand vous êtes parodié, c'est que vous êtes arrivé à un tel niveau de notoriété que c'est que tout va bien. C'est le, c'est le jour où on parle plus de vous que ça va pas.
Ouais, ça vous fait rire ou pas quand
bien
il
sûr,
vous parle
non,
de la...
qu'il a fait avec les vacances. Oui. J'ai mangé gras et tout. Mais c'est, oui. En plus, c'est pas faux parce qu'effectivement, oui. J'ai transpiré quand je suis monté sur la balance de l'huissier au début du mois de janvier.
Oui, il va falloir. Vous allez vous y remettre?
Non, moi j'y suis depuis
tout le temps.
C'est comme Henri Lecomte, vous savez, qui est obèse depuis 25 ans.
Oui, oui. On l'a pas vu trop obèse. On allez, on finit, c'est fini.
Non, j'ai un dernier son, mais il est très court. Donc, Benjamin Castaldi, Divisio, le Covid, l'argent, vos divorces, vos femmes, vous en avez peut-être marre. Alors, faites comme ces femmes israéliennes qui, pour s'enlever le poids de tous ces problèmes et surtout du confinement, c'est le troisième confinement en Israël et le Covid, elles crient chaque matin et c'était sur BFM.
Parce que c'est vrai, on en a gros sur la patate. Depuis un an, je vous présente le groupe d'Israéliens qui osent, ils en ont marre. Du coup, ils crient leur frustration un peu partout dans leur ville, en extérieur, sur le port, au milieu des citronniers.
C'est connu quand on pratique le yoga ou le tai chi. Le fait de crier libère les énergies et les pensées négatives.
Voilà. On a besoin de crier des fois.
Absolument.
Par rapport à tout ce qu'on
vit. Ça fait du bien. On va parler de ce livre, Je vous ai tant aimé, paru aux éditions du Rocher. Benjamin Castaldi, vous racontez, vous le disiez en début d'émission, vos grands-parents, la première fois qu'effectivement vous mettez en relation ce couple dans un livre, et vous racontez ces monstres sacrés. D'ailleurs, vous dites que dans Monstres, il y a monstres. Et puis, votre relation avec votre grand-mère, beaucoup, et puis avec Montand, après...
En fait, j'ai raconté quelques anecdotes, parce que je me suis surtout attaché...
À leur carrière,
parce que je me suis rendu compte, et ça, j'ai encore vérifier ça hier avec une jeune femme de 23 ans qui était ostéopathe, que je salue, et qui j'ai dit, vous savez qui est Simone Signoret Yves Montand ? Elle m'a dit, ah, pas du tout. Et donc ça a confirmé ce que j'avais un peu remarqué depuis quelques années, c'est qu'en fait ils sont restés bloqués dans leur siècle. Ouais. Vous demandez à un môme qui est de Funès, 9 sur 10 vont vous dire, ouais, de Funès, évidemment. Montand peut-être un peu, parce que justement il a fait la folie des grandeurs, et que Manon Dessour, Jean de Fleurette ont été un peu diffusés à l'école. Ma grand-mère...
On ne repasse plus ces films Casque d'or, on n'en parle pas. Mais
on en parle pas.
Le chat avec Jean Gabin.
Le chat passe plus à la télévision. Donc on a une femme qui a été une femme de son temps, une femme engagée, une femme libre, qui a été un modèle, qui a été couvert de prix. Oscar, César, BAFTA, British Award, prix d'interprétation à Cannes, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et aujourd'hui, à part la génération des quadras, des quinquas, etc., il n'y a plus personne qui fait référence à ma grand-mère. Et ça m'a fait de la peine, je trouvais ça assez injuste. Ouais. Donc j'ai dit, il serait peut-être temps d'essayer de... Je ne sais pas si je vais ramener des gens devant la télévision pour qu'ils regardent le manège ou Macadam ou le chat ou la veuve Coudeur même avec Delon, mais ça me peinait en fait. Ça me peinait sincèrement.
Aviez envie qu'on reparle, qu'on reparle d'eux, qu'on reparle de leur couple aussi, parce que ce qui reste aujourd'hui aussi dans l'histoire du couple, c'est Marilyn Monroe.
C'est vraiment. Mais d'ailleurs, j'en parle.
Oui, vous en parlez en disant que Montand.
Ou que c'était une petite histoire.
C'était une passade.
Ah ben, je vous dis que c'est bien sûr que c'est une passade. Je vous le dis parce que Montand me l'a dit. Et que Montand a eu d'autres coups de cœur, c'était pas Marilyn Monroe, où ça a été plus compliqué dans sa tête. Mais là, pour ce coup-là, oui, après, c'est le seul. Je vais vous dire pourquoi c'est important, ce Marilyn Monroe, parce que c'est le seul élément biographique qu'il nous rattache avec le 21e siècle, paradoxalement. C'est que si vous voulez que les gens s'intéressent un peu à mes grands-parents, et en particulier à ma grand-mère, il faut les rattacher à quelque chose. Et donc Marilyn Monroe, pour le coup, ça reste... Ouais, Marilyn Monroe, tout le monde sait qui c'est.
Il y a un chapitre qui s'appelle... Star, ça commence par qu'est-ce qu'être une star.
C'est pas nous, hein.
Eux, c'était des stars, évidemment, sauf que dans l'intimité, ce que vous racontez, c'est des gens assez simples.
Ma grand-mère,
Montand, vous dites, il arrive... Vous répétez souvent, quand il met un peignoir, il est... Il est chic.
Mais c'est hallucinant, ça. Ouais. C'est fou d'être aussi classe que ça. Moi, je ressemble à rien quand je m'appelle moi. C'est pas vous, mais moi, je ne ressemble à rien.
Rien du tout.
Attendez, je posais la question
sur les stars.
Les stars, j'en ai croisé, je pense, quelques-unes étaient vraies stars. Et il y a un point commun avec tous les gens que j'ai pu croiser qui étaient des stars, c'est que toutes vous dites bonjour, comment allez-vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et ça, vous pouvez le vérifier. les gens qui sont vraiment dans un statut de star, alors peut-être qu'ils le font pour être polis, mais au moins ils le font. Alors que ceux qui ne sont pas stars, ils vous calculent pas, ils vous disent pas bonjour ou à peine.
Absolument.
Et ça, je l'ai remarqué. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai vu Belmondo, il m'a dit bonjour. Alors peut-être qu'il savait qui j'étais, mais je crois pas. Il s'en foutait. Il m'a dit bonjour. Comment vas-tu? Qu'est-ce que c'est dans la vie? J'étais petit. J'ai dit je me suis à l'école, etc. Ça se vérifie à chaque fois.
Donc, c'est vrai.
Les stars, on est en France, il y en a peut-être une. Allez, il y en a 10.
Oui, mais il y en a, il y a plus les mêmes stars aujourd'hui.
Quelques-unes, je mettrais Sophie Marceau.
Sophie Marceau.
Je mettrais Jean Dujardin quand même, d'une certaine façon. Il y en a quand même, heureusement. Je mettrais Marion Cotillard. Mais c'est pas tant. Voilà, c'est pas tout le monde. En tout cas, c'est pas ceux qui font de la télé.
Ouais. Qui portait la culotte? En lisant votre livre, j'ai eu du mal à savoir qui dominait l'autre, parce que j'ai l'impression que Simone Signoret, souvent, elle le comprenait très bien, donc elle laissait passer les choses, mais elle n'était pas dupe.
Alors, pas dupe, ça c'est sûr. Ouais. Elle était obligée de ne pas être dupe. Je pense que c'était un assez bon équilibre. C'était un couple qui, justement, a fait des... Ils ont fait des compromis, comme je pense on en fait tous dans un couple. Donc, ils se sont mis d'accord.
Mais elle en était malheureuse ou pas?
Je pense qu'elle en a souffert, mais elle l'a très bien expliqué. Et c'est vrai qu'en revoyant tout ce qu'elle a pu dire, tout ce qu'elle a pu écrire. Oui, je pense qu'après l'affaire Marilyn, il y avait un pacte. Elle a dit, voilà, maintenant, il y avait la Signoret amoureuse, la Signoret femme, et maintenant, la Signoret va devenir autre chose. Et donc, elle le dit elle-même, elle a devancé l'âge. Mm. Elle a devancé l'appel, comme on dit. Mais c'est très beau. Il n'y a pas beaucoup de cas, pareil, pour les comédiennes qui devancent et qui vont vers des rôles qui les vieillissent. C'est vrai que très vite... Moi, quand je revois ces films, quand je revois par exemple la Veuve Coudert, elle a 55 ans, 56 ans.
Ouais.
Et quand vous voyez la tête qu'elle a, c'est une vieille dame.
Ouais, c'est une vieille dame.
Madame Rosa, c'est plus qu'une vieille dame.
Bien sûr.
Ouais, c'est vrai.
C'est terrible.
Ouais. Et Mémé, vous l'appeliez Mémé?
Oui, parce qu'elle aimait qu'on l'appelle Mémé, parce que pareil, c'était ma grand-mère était très coquette, c'était une coquetterie de sa part. Donc se faire appeler Mémé, c'était aussi une façon, encore plus que grand-mère. Mais encore une fois, elle allait au devant de l'âge. C'était très malin de sa part.
Vous avez des relations avec le dernier fils qu'il a eu ou pas du tout?
Pas du tout, pas du tout. Quand vous lisez le bouquin, j'ai vraiment fait attention de. Je ne suis pas rentré dans tout ce qui. J'ai dit les choses telles qu'elles sont. Montand a toujours dit on ne refait pas sa vie, on la continue.
Ouais.
Donc il a continué sa vie, c'était bien normal. C'était de façon ça, oui. Je pense qu'il était de façon fracassé par la mort de sa femme, ce qui est bien normal, mais ça ne l'a pas empêché d'admettre. Ouais. Et je peux vous dire que je suis sûr qu'il était très content d'avoir un petit.
Ouais.
Valentin. Après, je ne les bois pas pour des questions. Voilà,
c'est la
famille, voilà, peu importe. Mais je pense qu'il en a été très fier. Et je suis à peu près certain que grâce à cet enfant qui est arrivé dans sa vie, il a partagé des choses avec moi qu'il n'aurait pas partagé parce qu'il s'est dit je ne vais peut-être pas pouvoir tout suivre chez ce petit enfant. Donc je vais essayer de voir ce que ça va faire d'avoir un. Parce qu'il n'a jamais été mon grand-père au sens génétique.
Oui, génétique.
Et puis la relation que j'ai eue avec lui, justement, dans les 3 dernières années de sa vie, c'était très proche parce que je pense qu'il se projetait dans un papa qui ne pourrait peut-être pas être. Mmh. Voilà. Mmh.
Oui, mais il y avait une relation quand même filiale, d'une certaine manière, avec vous, puisque vous l'avez connu quand même
pendant 21 ans.
Pendant 21 ans, absolument. Le livre, ce n'est pas Benjamin Castaldi et ses grands-parents, c'est vraiment un travail, vous l'avez dit,
un gros
travail sur le cinéma français, sur ce qui s'est passé aux Oscars. Vous racontez cette scène quand elle est là-bas c'est vraiment, on rentre dans les coulisses du cinéma.
On a essayé de donner, on a retrouvé d'abord plein. Vraiment, moi j'ai découvert un truc dingue, c'est que Montand, il est là aux Oscars. Il chante deux fois sur scène.
Absolument, c'est incroyable.
Parce que moi, je ne savais pas. D'ailleurs, je voudrais retrouver la cérémonie en entier. J'arrive pas à me la procurer. Et donc il était là. Et puis surtout, moi qui suis un peu, on ne sait pas trop parce que forcément, c'est parce que je moi j'adore l'histoire, et en particulier l'histoire qui va de 45, enfin de 39 à 70, parce que je pense que le monde dans lequel on vit aujourd'hui s'est construit uniquement sur les cendres ou en tout cas sur les bases de la Seconde Guerre mondiale, et eux ils l'ont traversé toutes ces périodes là. L'Union soviétique qui n'existe plus, Prague, Budapest, la guerre du Vietnam, etc. Donc c'était important de les replacer dans leur temps, mais je voulais les ramener avec nous.
Voilà. Avec quel comédien Montand s'entendait bien? C'était qui son grand pote? Est-ce qu'il ils étaient un peu à part dans le milieu du cinéma, les deux?
Je pense pas qu'il avait de... Ses grands potes, c'était Semprin, c'était Gavras, vraiment. Dans les comédiens, je pourrais pas vous répondre.
Ah, c'est drôle ça.
Ma grand-mère.
Donc ils étaient un peu hors milieu finalement du cinéma. Ils n'étaient pas très showbiz.
Pas du tout. Alors, pas
non,
du tout.
Alors,
eux, ils n'étaient pas du tout showbiz. Mais et, le showbiz tel que vous l'évoquez aujourd'hui n'existait pas vraiment. C'était pas. Voilà, aujourd'hui, c'est le showbiz, c'est quelque chose de bien particulier. Eux, ils étaient dans leur monde, puis ils étaient surtout, ils étaient un peu au-dessus du panier quand même. Hein. Donc, ils vivaient dans leur coin. Il y avait plein de gens qui venaient à la maison, hein. Mais je peux pas vous dire que dans le cinéma, je peux pas vous dire de comédien avec qui il aurait été proche particulièrement.
Oui, en revanche, vous racontez ces week-ends à Auteuil, donc leur maison où vous avez vu passer pratiquement tout le cinéma français.
Une partie, j'ai vu passer. Hein. Non, mais non, c'est sûr que j'ai vu passer Piccoli, j'ai vu passer Nourieff. Vous vous rendez compte, j'ai croisé Nourieff, c'est assez incroyable.
Ouais, c'est dingue.
Donc, et puis des plein de gens dont je ne savais pas qui ils étaient d'ailleurs à l'époque.
Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais.
Mais oui, oui, évidemment, et Marina Vladi. Gavras, Semprin, enfin tout ça, c'était Semprin, j'ai pu le recevoir à la radio quand j'en faisais, et c'était marrant parce que je lui ai dit un peu comme je dis dans le livre, je lui ai dit ben quand je pense que je t'ai eu à table tous les week-ends et que je t'ai pas posé une question sur ta vie, il faudra plus d'une heure pour rattraper le temps perdu. Mais c'est un peu ça, c'est un peu la recherche du temps perdu, ce livre.
Ouais. Qu'est-ce que vous gardez de Montand? Comment vous, alors je dis Montand et Signoret, mais de ce couple, s'il fallait les résumer.
Moi, Montand, et ça a été forcément un modèle, un guide, même un peu obsessionnel. Je pense que si j'ai été dans certaines directions de flamboyance et de...
Oui, parce que vous dites que c'était un dandy. Hein,
voilà, de dépenses dispendieuses, comme dirait l'autre. C'était parce que je courais après cet idéal-là. Ouais. Et d'ailleurs, parfois, ça m'a valu quelques désillusions, quelques claques. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé... J'ai ma mère avec une Ferrari flambant neuve. Je pensais qu'elle allait être très contente et en fait elle s'en foutait complètement. voilà donc.
Mais il y avait de l'héritage, de la flamboyance.
Mais bon, la différence c'est que moi je suis pas un immigré italien ayant connu l'usine et en plus elle a acheté une Ferrari.
Mais sans eux, vous auriez peut-être pas voulu aller dans le showbiz, dans la télé.
Si j'avais été vivant, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait.
C'est-à-dire?
Parce que j'aurais fait des études, j'aurais retenté Sciences Po, je me serais resté un petit enfant stage, bien propre sur lui.
Vous regrettez d'avoir mis le pied dans la télé, dans tout ça?
Pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est génial. Mais non, mais j'aurais peut-être fait du journalisme, j'aurais peut-être été journaliste cinéma, par exemple, un truc un peu plus discret.
Oui, ouais. Ouais, voilà. En même temps, c'était pas votre, votre tempérament, si?
D'être discret.
Oui. Non, pas
tellement. Voilà, mais j'étais passionné par le cinéma déjà tout petit. Donc c'était assez logique que Drucker m'engage en tant que chroniqueur cinéma.
Alors vous êtes souvent sur Touche pas à mon poste. Est-ce que vous regardez
souvent tous les jours?
Voilà. Et donc en face, il y a Demain nous appartient. Est-ce que vous regardez en replay? Parce que dans Demain nous appartient, il y a sa maman.
Non,
vous la regardez pas quand elle prend les huîtres et tout?
Non, Demain vous appartient. Hier soir vous oubliez. Demain soir j'irai mieux. Non, tous ces trucs là, je regarde.
Vous regardez pas votre maman?
Mais non.
Avec les huîtres et tout.
Non, j'ai appris qu'elle avait Alzheimer dans la série, j'étais très très peiné.
Oui, en ce moment, elle a Alzheimer.
Grâce à Dieu, elle l'a pas dans la réalité.
Elle va bien?
Non, elle va très bien. Ouais. Elle vit en Bretagne, là.
Ah oui, d'accord. Elle
est du Kitsar, j'embrasse.
Elle tourne beaucoup, elle tourne énormément,
absolument. Je vous ai tenté main, Benjamin Castaldi, c'est aux éditions du Rocher, c'est un très très chouette livre, à la fois tendre, parce que vous évoquez vos souvenirs personnels, et en même temps, une histoire du cinéma. On retrouve là, j'ouvre, Reggiani, Gérard Philippe, Rock Hudson.
Rock Hudson, c'est le monsieur qui a remis son Oscar et qui va mourir deux jours après elle.
Qu'est-ce qu'il est devenu, l'Oscar?
C'est ma sœur qui l'a. Moi, j'ai le César, elle a l'Oscar.
Ah, d'accord.
J'aurais préféré avoir l'Oscar, mais bon, j'ai eu le César.
Ça a une valeur ou pas du tout?
Ça vaut une fortune.
Mais clairement.
Ah, ça vaut plus de 500 000 euros, vous rigolez quoi? Un Oscar de cette période-là, ça vaut
une fortune.
Il va falloir réclamer
une compensation.
Mais qui le rachèterait?
Des collectionneurs.
Bah, des collectionneurs.
D'abord, c'est le premier Oscar pour une actrice française en langue anglaise, qui date de 61. Ouais. Ça vaut une fortune. Ça n'a pas de prix, je pense.
Eh ben voilà, il faudra refaire les comptes. Ouais, merci beaucoup, Benjamin Castaldi, aux éditions du Rocher. Je vous ai tant aimé. On se retrouve dans un instant avec vous pour continuer le 10h midi.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio, l'œil de l'expert.
Avec vous sur Sud Radio, avec Vanessa Saab aujourd'hui. Bonjour, vous êtes secrétaire adjointe du collectif pour l'enfance et vice-présidente d'Enfance Majuscule. C'est important de vous avoir aujourd'hui puisque vous êtes là pour nous parler de cette loi qui est en train de se profiler autour du seuil d'âge en cas d'inceste avec des enfants. On parle de 13 ans, on parle de 15 ans. Alors je voulais que vous nous expliquiez exactement de quoi il s'agit en France. La justice considère qu'un enfant peut consentir à un acte sexuel imposé par un adulte. En quelque sorte, la loi était mal faite jusqu'à maintenant. Avec le livre de Camille Kouchner, beaucoup de témoignages, une avalanche de témoignages qui a saisi tout le monde. On dit qu'un enfant sur 10, enfin une personne sur 10 en France aurait été victime d'inceste. Et vous avez, vous, décidé de vous engager pour que cette loi prenne bien en compte un seuil d'âge...
effectif.
Effectif. Alors, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Il faut préciser que vous regroupez aujourd'hui 31 associations, ce qui est relativement très rare dans le milieu associatif.
Ah, c'est historique. Hein, voilà. C'est historique. On s'est constitué. Pour être très clair, on s'est constitué au moment de la loi Schiappa, donc il y a 2 ans, quand Emmanuel Macron a déjà émis le souhait d'un seuil d'âge à 15 ans. Et en fait, ce texte, on a tous espéré avoir un seuil d'âge à 15 ans, mais ce texte prévoit que le juge doit vérifier, je simplifie un petit peu.
Oui, bien sûr, non, mais il faut que nos auditeurs comprennent bien.
Que le juge doit vérifier le discernement de l'enfant. Donc en fait, on en arrive à ce que, quel que soit l'âge de l'enfant, il faut vérifier que l'enfant est discernant. Donc en France...
C'est-à-dire qu'il
la question du consentement se pose aujourd'hui à tous les âges. Voilà. Donc on demande maintenant un vrai seuil d'âge. D'accord. Tout le monde a entendu parler, je pense, du texte de loi de Billon.
Il faudrait vous rapprocher un petit peu du micro.
Tout le monde a entendu parler de la loi Billon, je pense. Je vais rappeler ce qu'elle contient, c'est important. Donc là, on a un seuil d'âge à 13 ans. Mais simplement, ça ne couvre que les actes de pénétration et les actes bucogénitaux.
D'accord.
Ce qui veut dire que... Tout ce qui est attouchement, tout ça n'est pas pris en compte. Et donc, et il n'y a rien sur l'inceste dans ce texte.
Ouais, l'inceste, en plus, il faut le rappeler, n'est pas qualifié dans la loi.
Non. C'est juste une aggravation.
C'est une aggravation, mais il n'y a pas de délit d'inceste.
Absolument pas. Et encore, il a fallu, les associations ont dû se bagarrer pour que ça rentre dans les textes en 2016. Donc, le texte de Billon ne protège pas. Il n'y a rien sur l'inceste dans ce texte. Et donc, il n'y a rien sur les violences sexuelles, il n'y a que sur viol. Donc voilà, ça c'est 13 ans. Hier, en commission, il y a une proposition de loi à Santiago qui a été débattue, d'accord ? Et en réalité, finalement, le texte de base de Mme Santiago a été écarté par La République En Marche.
Ouais. Que disait-il ce texte ?
Alors, il proposait 2 seuils d'âge, 2 infractions spécifiques, exactement ce que demande le collectif pour l'enfance. Une infraction spécifique à 15 ans, sans s'interroger sur le consentement pour les violences sexuelles, et un autre pour l'inceste jusqu'à 18 ans.
D'accord.
Donc il a été écarté pour l'instant parce que par des propositions d'Alexandra Louis, certaines proposent un seuil d'âge. Enfin, il y en a une qui propose un seuil d'âge à 15 ans. Alors je suis peut-être un peu technique. Il y a une infraction 15-18 ans pour l'inceste, mais il y a une faille énorme dans ce texte. Qui a été introduite par le gouvernement parce que ce texte ne contenait pas cette précision. Je vais le lire en fait précisément pour que les auditeurs comprennent bien. Donc, il propose un amendement qui dit « L'infraction n'est pas constituée, donc l'infraction sexuelle, quelle qu'elle soit, n'est pas constituée s'il y a moins de 5 ans d'écart d'âge. » Ça veut dire quoi ? Pour les mineurs. Donc, ça veut dire que un jeune de 18-19 ans peut agresser quelqu'un qui a 13-14 ans, sans qu'il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'hier a été abrogée l'atteinte sexuelle. C'est très technique ce que je suis en train de dire, je suis désolée. Mais c'est pour juste pointer cette faille qui est dangereuse.
Mais ça veut dire aussi qu'un mineur ne peut pas avoir de relations sexuelles parce qu'il y en a qui à 15 ans, ou 14 ans et demi, peuvent avoir des relations sexuelles entre eux. Je dirais de la sexualité...
entre mineurs et majeurs.
D'accord.
Donc, c'est un écart d'âge entre mineurs et majeurs. Et donc la faille, c'est entre 13 et 14... À 18-19 ans, on peut avoir des relations sexuelles donc, avec quelqu'un qui a 13-14, sans que ça soit considéré ni un viol ni un crime, même en cas d'inceste.
D'accord.
Donc c'est une faille béante qui revient finalement, contrairement à ce qu'a annoncé le gouvernement il y a quelques jours, à faire un seuil d'âge à 13 ans.
Oui, donc vous dites que En fait, le gouvernement sent qu'il y a une pression et est en train, enfin c'est moi qui le dis et qui comprends ça, et que le gouvernement est en train de contourner d'une certaine manière, de mettre des amendements qui feront que dans la réalité des faits, il y aura...
Moi j'ai envie d'avoir de l'espoir quand même. Ouais. J'ai envie de dire que là, ce n'est pas clair et que quand la volonté est claire, les textes sont clairs.
Ouais.
Donc là, on a une volonté affichée. Ouais. On a déjà eu ça il y a 2 ans. Et ce qui serait bien sur des sujets aussi graves et aussi importants que la protection de nos enfants, c'est que la volonté soit vraiment claire. Et à ce moment-là, ça se traduirait dans les textes.
Ouais.
On se rend bien compte, quand je l'explique d'ailleurs, en essayant vraiment d'être clair, que c'est quand même extrêmement complexe.
Alors, je voulais vous faire réécouter le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, et vous me disiez ce que vous en pensez.
Voilà ce que je peux vous annoncer aujourd'hui de façon précise. D'abord, nous allons toucher au seuil d'âge. Alors, je veux m'expliquer qu'est-ce que c'est le seuil d'âge. Un acte de pénétration sexuelle accompli par un adulte sur un mineur de moins de 15 ans sera un viol.
Ça veut dire qu'il n'est plus question de parler de consentement avant 15 ans.
Plus question pour l'auteur d'exciper de je ne sais quel consentement.
Alors, là, on se dit c'est plutôt
c'est plutôt bien, mais quand on décode, il parle que du viol.
Ouais.
Déjà.
D'accord.
Donc on s'interroge sur est-ce que en fait parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient faire remonter la PPL Billon.
Ouais.
Donc là, on s'interroge sur qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement, parce qu'il n'y a pas que le viol qui est à protéger.
Ouais.
On est d'accord,
il faut
protéger toutes les violences sexuelles. On se dit c'est gagné, effectivement, l'annonce au seuil d'âge.
Ouais.
Mais en réalité, voilà ce qui se passe le lendemain.
Ouais.
Donc nous, association, nous alertons vraiment sur les effets d'annonce et on attend un vrai seuil d'âge. On attend que les enfants soient vraiment protégés. On attend... Il y a quelque chose, on a eu un MeToo de l'inceste
qui est
historique aussi. On a une union, je dirais, entre les associations qui est historique et je dirais aussi des personnalités qui s'impliquent, qui commencent à s'impliquer dans ce débat. Et pour autant, on a l'impression que le gouvernement reste partiellement sourd parce que avant-hier, dans ses déclarations, il n'a pas dit grand-chose sur l'inceste.
Mmh. Non, il a parlé d'agression sexuelle.
Je rappelle que la PPL
sexuelle.
Billon, il n'y avait rien sur l'inceste dans la PPL Billon. Et c'est Monsieur Castaner a demandé à ce que ça soit la PPL Billon pour gagner du temps.
La proposition de loi, PPL.
Pardon, excusez-moi.
Vous êtes dedans jusqu'au cou. La proposition de loi Billon
qui soit reprise dans sa niche.
Ce matin, il faut lire dans Le Parisien le témoignage de la nièce du chirurgien Le Skouarnec qui témoigne, qui raconte. Et son témoignage est glaçant. J'en ai des frissons en parlant parce qu'elle ne se souvenait pas. C'est-à-dire qu'on voit la complexité de ce que représente une agression sexuelle, la façon dont on occulte, ce qu'explique très bien Muriel Salmona, mais c'est compliqué quand les gens disent pourquoi ils se réveillent 30 ans après et tout. Bah oui, on peut se réveiller 30 ans après, on peut avoir des souvenirs qui n'existent parce que là, elle s'est confrontée aux photos qu'il avait prises, qu'elle a réalisé ce qui lui était arrivé aussi. Donc il y a aussi tout cet aspect-là, la complexité de la plainte quand on a été victime d'inceste dans l'enfance.
Et puis il y a ça, et puis il y a on sent quand même une difficulté à entendre la réalité psychologique.
Absolument.
La réalité psychologique des 13-15 ans, c'est que le cortex préfrontal n'est pas mature et qu'ils n'arrivent pas à prendre des décisions, à choisir, qu'ils se créent une fausse identité. Quand on parle d'amnésie traumatique, là aussi, il y a des mécanismes psychiques très complexes qui font qu'en état de choc, en réalité, le système mnésique ne fonctionne pas comme il fonctionne normalement. Et en réalité, il mémorise dans un endroit qui n'est pas accessible au cortex préfrontal. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y a choc. Et on l'a déjà expérimenté tous, en fait. Quand on est choqué par quelque chose, on ne réfléchit plus. On est dans l'émotion. Quand quelque chose nous impacte, on est dans l'émotion. Donc, la scène, elle est mémorisée quelque part, mais par contre, elle n'a pas été traitée par la logique.
D'accord.
Donc, elle n'accède pas à la mémoire, et parfois, c'est un élément qui va venir la réveiller. Alors ça, c'est pour la mémoire, l'amnésie traumatique. Mais ensuite, parler, c'est très compliqué. D'abord, on veut oublier. Les victimes veulent oublier. Donc elles veulent oublier, elles n'ont pas envie de se souvenir, elles veulent construire leur vie. Et en réalité, souvent, les victimes commencent à parler quand leur enfant, à l'âge qu'elle avait, au moment où les actes sont arrivés. Là, ça fait comme un électrochoc.
Et vous êtes pour une abolition de la prescription en cas d'inceste ?
Alors, je m'exprime en tant que vice-présidente d'Enfance Majuscule sur cette question, puisque le collectif... est un collectif d'associations qui est concentré sur le seuil d'âge, en fait. Il s'est réuni autour de ce seuil d'âge. C'est complexe parce que moi, je pense que pour faire évoluer le droit quelle que soit la manière de le faire évoluer, il faut l'interroger en profondeur. Là, le collectif, par exemple, a fait un colloque pour proposer des textes. On ne peut pas demander l'imprescriptibilité sans se soucier des crimes.
Bien sûr. Vous, aujourd'hui, pour résumer ce que
on est plutôt quand même favorable à la prescription glissante dont il a parlé, à la levée de la prescription quand l'agresseur réitère
des actes. Voilà. Mais ce que vous demandez aujourd'hui, c'est ce seuil d'âge.
On demande deux seuils d'âge,
un à 15 ans et un à 18 ans. Et vous ne lâcherez pas. Très forte mobilisation le gouvernement l'entende.
Cette mobilisation est très forte. On poste sur les réseaux sociaux tous ensemble. Parfois, les personnalités nous suivent.
J'ai accepté de signer, vous suivre.
Qui va venir. Et puis sur les réseaux sociaux, on partage en même temps. Et c'est historique parce que ça veut dire qu'on se parle.
Ouais.
Et on se parle et on lâchera pas ça. Et ça, c'est très très important de le dire. C'est que il faut protéger nos enfants avant tout. Minimiser les actes de violence sexuelle, c'est d'un autre temps. D'un autre temps. C'est terminé. C'est pour ça qu'on se bagarre.
Et je recommande vraiment la lecture de cette interview aujourd'hui dans Le Parisien, parce qu'elle raconte que le Skornek a lui-même été victime de son père et qu'il y a souvent une reproduction de ses actes. Merci beaucoup Vanessa Sab. On peut qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, vous soutenir,
nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que finalement on fait bouger les choses, sur Twitter en particulier, mais sur tous les réseaux sociaux.
Le compte Twitter, c'est
Collectif pour l'enfance.
Collectif pour l'enfance. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio, puis on va évidemment suivre ça avec beaucoup d'attention. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité avec vous. À tout de suite.